Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir, ravi de vous retrouver en direct du Bourget, en direct sur RFI donc, et en streaming sur la chaîne Dailymotion de la Radio du Monde. Deuxième jour de la conférence mondiale sur le climat ici à Paris. L'occasion ce soir de revenir sur un mot contraignant, car les mots sont et seront fondamentaux dans ces négociations. C'est un à un qu'ils sont et seront analysés, raturés, modifiés, précisés, choisis, avec pour objectif de trouver un accord sur la limitation du réchauffement climatique d'ici la fin du siècle. Mais quel type d'accord au juste? On entend différents adjectifs depuis quelques heures. Hier, le numéro 1 des Nations Unies parlait de la nécessité d'un accord dynamique. François Hollande, lui, martèle depuis des mois qu'il doit être contraignant, c'est-à-dire contraignant juridiquement et donc assorti de sanctions éventuelles. Problème, les États-Unis ont déjà prévenu, ils ne signeront pas un accord contraignant en matière de réduction des émissions. Alors un accord contraignant est-il encore possible à la COP21? C'est le débat de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Jean-Marc Germain, bonsoir. Vous êtes député socialiste des Hauts-de-Seine, secrétaire national chargé du pôle mondialisation, régulation, coopération et membre de la commission des affaires étrangères. Et puis notre deuxième invité est Pierre Canet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable du programme Climat au WWF France, le Fonds mondial pour la nature.
Je pense à ces îles qui peuvent, à brève échéance, purement et simplement disparaître. Et je veux ici en être leur porte-parole, parce que c'est la biodiversité et la diversité même de la planète qui sont en cause. L'accord doit être universel, différencié et contraignant.
Voilà, c'était François Hollande, le chef de l'État, hier, en ouverture des débats. Pierre Canet, un accord contraignant, comme le veut le président. Est-ce que c'est réaliste?
C'est réaliste, effectivement, car c'est un mandat qui a été pris et un engagement par l'ensemble des pays à Durban. Il faut que cet aspect contraignant juridique soit respecté à la COP21. Maintenant, il y a plusieurs niveaux à considérer. Donc, tout à fait possible d'avoir un accord contraignant. Maintenant, la question est de savoir ce qu'on met derrière la contrainte.
On va évidemment y venir, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'autoconviction ou de parole, j'allais dire, politicienne de la part de François Hollande, sachant qu'on le sait, hein, les États-Unis, je l'ai dit il y a encore quelques secondes, ont dit non à un accord contraignant.
Les États-Unis n'ont pas dit cela. Les États-Unis ont dit, effectivement, qu'ils voyaient une difficulté à faire passer un outil qui fixerait une contrainte sur le chiffre posé sur la table. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir, effectivement, en tant qu'organisation environnementale, on aurait adoré un super protocole et un super outil juridique international, avec des sanctions, qui obligent les pays et les engagent au niveau international. Maintenant, regardons la réalité politique, notamment du côté des États-Unis, avec cette nécessité de les avoir à bord et la possibilité politique de les voir signer un accord qui ne passerait directement pas par le Congrès, et donc du coup voir quel arrangement nous pouvons et les pays vont devoir trouver en termes de contraintes dans l'accord de Paris.
Jean-Marc Germain, pourquoi marteler ce mot contraignant? C'est ce que fait François Hollande depuis plusieurs mois, alors qu'on le sait, les États-Unis avaient dit non, pas de contraintes sur le chiffre, c'est vrai.
Parce qu'au fond, il l'a dit d'une autre forme qui est peut-être moins juridique, mais que les belles déclarations, c'est bien et c'est nécessaire. Et on en a eu des très fortes à l'ouverture de la conférence et elles sont nécessaires. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est des résultats. Comme l'a dit le président Obama, on est la première génération à être responsable du réchauffement climatique, mais on est la dernière génération à pouvoir le régler. C'est-à-dire que si ce qu'on décide ici, les objectifs qu'on fixe, et moi je me réjouis d'ailleurs qu'on soit allé en dessous des 2 degrés de réchauffement, parce que le président français a évoqué 1,5 degré, parce que c'est nécessaire si on veut évoquer les dégâts, mais que maintenant il faut agir. Et donc, il y a les engagements qui sont nécessaires, il y a les actions aussi, on va en parler, mais qui concernent tous les acteurs de la société. Moi, je me réjouis ici que dans les allées, on ait beaucoup d'acteurs, on ait des accords qui vont être signés, très opérationnels sur quelles innovations pour l'énergie, quels grands projets pour l'Afrique et d'autres qui vont être signés.
Donc, ce ne sont plus que les États qui négocient.
Oui, les villes, par exemple, Anne Hidalgo va réunir 1000 maires autour d'elle et vont décider de choses très concrètes, par exemple comme commander en commun des bus propres pour que les constructeurs automobiles soient contraint à fabriquer des bus propres. Donc il faut du résultat, c'est ça qui est essentiel pour moi. Mais je rejoins mon interlocuteur, c'est que il faut un moment aussi donné que ça devienne contraignant juridiquement. J'espère qu'ici à Paris on ira le plus loin possible, et c'est vrai que par exemple Barack Obama a un problème pour lui de prendre un engagement.
Oui, parce qu'un traité doit être ratifié par le Congrès.
Il y a non seulement le
Congrès
qui doit être le ratifier, mais ensuite il y a chacun des États qui doit le ratifier. Mais on doit aller au maximum dans la contrainte. Et puis moi, ce que je souhaite, c'est que, par exemple, depuis des années, on souhaite, en tout cas beaucoup souhaitent, qu'il y ait une organisation mondiale de l'environnement qui soit créée. Je crois que ce sera nécessaire tôt ou tard, parce que vous savez, il y a une OMC qui a des règles contraignantes en matière de commerce. Il n'y a aucune raison qu'en matière d'environnement.
Alors on va y venir sur la création éventuelle d'une organisation internationale qui pourrait mettre en œuvre des sanctions. Mais d'abord, alors qu'est-ce qu'on doit entendre par contraignant pour qu'un accord soit possible, Pierre Quesnay?
Ça passe tout d'abord par les rouages et les mécanismes qui seront trouvés dans l'accord. D'abord, les règles et les procédures de l'accord. Ensuite,
concrètement, pour nos auditeurs, ça veut dire quoi contraindre sur les règles et les procédures?
Faire en sorte que les décisions prises dans le texte, les mots comptent, c'est-à-dire que entre devoir, invité, vous avez également dans l'ensemble de l'accord des mots qui engagent plus ou moins les acteurs en fonction du verbe choisi, du temps, etc. Donc nous avons, je pense, et c'est très important, cette question des décisions et des différents niveaux d'engagement déjà dans les mots choisis dans les paragraphes.
Donc, par exemple, au lieu d'écrire dans cet accord « nous nous engageons à respecter nos engagements nationaux volontaires », on pourrait écrire « nous nous engageons à mettre en œuvre des politiques visant à les atteindre ». C'est ce genre de distinction verbale qui pourrait faire qu'un accord contraignant est possible.
Cette nuance aussi, oui, dans les mots choisis. Et puis, la notion de suivi. C'est-à-dire que ces promesses, pour l'instant, elles restent intentionnelles. Nous avons eu des annonces des pays. Il va falloir que ces objectifs soient captés, en quelque sorte, dans l'accord, et qu'ils soient suivis. Donc il y a tout un exercice de données, de récolte des données, d'analyse de ces données, et de vérification. Et donc aujourd'hui, les discussions qui se sont conduites sur la transparence pointent du doigt cette question de la vérification, et donnent lieu à de nombreuses discussions avec quelques tensions, de savoir comment des pays pourront accepter que des pairs ou qu'un organe vienne chez eux vérifier que ces objectifs soient bien suivis, que les données soient correctes.
Alors Jean-Marc Germain, je voudrais vous faire réagir sur une déclaration qui est signée Laurence Toubiana, qui est l'ambassadrice française pour la COP21 et qui déclarait « la contrainte, ce pourrait être l'obligation de transparence », c'est ce que nous disait tout à l'heure Pierre Quesnay, « et l'effet de réputation ». Est-ce que vous pensez que c'est effectivement une piste à suivre pour ces négociations ?
Oui, je pense que c'est majeur. À la fois la transparence, mais transparence, ça veut dire qu'il y aura un organisme international qui sera chargé de vérifier, de mesurer les émissions de CO2 en s'appuyant sur le national, mais aussi sur des moyens d'investigation propres, et de dire quelles ont été les émissions par rapport aux objectifs. Et
parce le deuxième qu'aujourd'hui, élément, on ne sait pas calculer de la même manière les émissions dans tous les pays.
Aujourd'hui, c'est les pays qui les calculent eux-mêmes. Parce que, par exemple, pour calculer les émissions, on regarde les centrales qui fabriquent de l'énergie à partir de cette énergie, des centrales à charbon, des centrales à bois, des centrales nucléaires. On en déduit des émissions de gaz à effet de serre dans l'économie. Donc si c'est le pays qui maîtrise lui-même ses propres chiffres, on voit bien qu'on s'en sortira pas. Donc cet aspect-là, il est majeur. La deuxième chose, c'est la transparence. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'il est important, il était très important, et c'est déjà une réussite, qu'il y ait 190 pays... 183 en réalité, qui est fixé des objectifs, même s'ils ne sont pas suffisants. Parce que vous savez, derrière, il y a les opinions publiques. Et d'ailleurs, le fait que les associations soient présentes, que les ONG soient présentes, que les ONG soient agissent sur les contenus, c'est majeur. Parce que les opinions publiques, partout dans le monde en ce moment, ou quasiment partout dans le monde, peut-être pas dans les Émirats, elles demandent à ce qu'il y ait des résultats sur les émissions de CO2. Et dans un pays où il y a 75% des habitants qui veulent des réductions d'émissions de CO2, si vous n'atteignez pas les objectifs, vous serez sanctionné. Regardez la Chine. Pourquoi elle est autour de la table ? C'est nouveau. Parce que vous avez à Pékin des pics de pollution quasiment tous les jours.
Jours-ci.
Et que les habitants en souffrent. Et c'est ça qui va faire pression. Et donc, c'est pas simplement se payer de mots en disant on va faire de la transparence et on va, au fond, donner la honte, entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'on dit en anglais, à ceux qui respectent pas. Moi, je crois que c'est un mécanisme très important de régulation. Peut-être plus que de dire vous serez sanctionné par une organisation internationale qui vous mettra une punition. Ou comme à Kyoto, on avait dit si vous y arrivez pas, ce que vous devrez faire après sera encore pire. On voit bien que c'était une sorte de fuite en avant, même si juridiquement, c'est un peu plus fort, en théorie.
À COP 21, peut-on encore parvenir à un accord contraignant ? C'est donc le débat de ce soir en direct du Bourget. Je vous le rappelle, sur RFI et sur la chaîne Dailymotion de RFI, avec deux invités, le député socialiste Jean-Marc Germain et puis Pierre Canet du VVF, WWF France, pardonnez-moi. Alors, précisément, Pierre Canet, je voudrais vous faire réagir à ce que vient de dire Jean-Marc Germain. Est-ce que la mobilisation de la société civile, c'est important et c'est ce qui peut faire que ce qui se passe aujourd'hui à Paris, à la COP 21, c'est différent et c'est une marche supplémentaire qui a été franchie?
C'est d'abord essentiel, mais surtout d'abord de noter que la transformation et la transition, elle est portée sur le terrain, dans les territoires, par la société civile. Nous avons eu ce week-end 750 000 personnes à travers le monde qui se sont mobilisées en regardant effectivement vers l'avenir et en portant l'ensemble des solutions et des demandes auprès des décideurs pour aller plus vite. Donc la société civile est là pour dire effectivement qu'elle est mobilisée, mais au-delà de savoir comment consacrer effectivement une observation, une évaluation des objectifs des pays, de se dire que nous ne pouvons pas simplement déléguer à la société civile cette histoire de revue et cette histoire d'évaluation de ce qui peut être fait au niveau international. Il va falloir qu'à Paris, nous ayons des décisions sur cette évaluation. Il va falloir que cette transparence soit faite par des règles, par des décisions à Paris. On ne peut pas inscrire Paris comme étant un simple exercice de communication, de contribution et de promesses qui serait en quelque sorte évalué par la société civile à travers le monde. Et donc, il faudra effectivement que les pays s'engagent à un suivi au niveau mondial de façon contraignante, et il est encore possible de voir ces résultats émerger à Paris.
Alors Jean-Marc Germain, est-ce que on pourrait estimer qu'un bon accord serait un accord qui obligerait les pays à accroître leurs engagements nationaux, par exemple tous les 5 ans à se donner des rendez-vous, ils se forcent à prendre des mesures de plus en plus importantes et de plus en plus contraignantes?
Oui, c'est essentiel, je crois qu'il y a une sorte d'effet de cliquet, c'est-à-dire que tous les 5 ans, et avant même d'ailleurs 2020, puisque cet accord, vous le savez, rentrera en vigueur en 2020, il faut qu'avant 2020, on puisse avoir une première révision et que chaque pays s'engage tous les 5 ans à faire mieux que
Laurent
ce qu'il
Fabius
avait.
Le disait sur notre antenne ce matin, prévu. Il a parlé de 2018.
C'est totalement essentiel. Et ce qui est intéressant, ce qui se passe ici, c'est que c'est possible. Il y a eu un accord qui a été signé, par exemple, pour financer l'innovation en matière énergétique. Vous savez, il y a quelques années, on pensait que l'éolien, c'était 2 fois plus cher que le nucléaire. Aujourd'hui, grâce au progrès de la technologie, de la production, on en arrive à un même coût, voire un coût inférieur si on valorise bien le nucléaire. Donc on aura des progrès comme ça, surtout si on double, comme l'a proposé la France, les moyens qui seront pour la recherche en la matière. Donc c'est à la fois un effet cliquet, mais c'est à la fois miser sur ces énergies-là, en matière d'énergie, sur les économies d'énergie, sur le développement durable. Ce qui est aussi assez fascinant à observer ici sur place, c'est que je crois qu'on est en train d'inventer avec force une nouvelle façon de faire de la politique au sens noble du terme. C'est-à-dire pas simplement de choisir des gouvernants une fois tous les 5 ans dans chacun de nos pays, mais au fond de travailler main dans la main en permanence. Les COP, c'est chaque année. Entre chaque COP, maintenant, il y a des liens très forts qui se font.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est venu du bas, puisque les contributions ont été apportées. On n'a pas imposé des chiffres. C'est les pays qui ont apporté leurs contributions. Et pas que les pays,
voilà,
d'ailleurs.
C'est venu du bas, mais j'allais dire, et c'est pas mon interlocuteur du WWF qui va me dire le contraire. Le bas, ça fait très longtemps qu'il lance des cris d'alarme. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une articulation intelligente qui est en train de se faire entre le bas et le haut, entre les acteurs, les citoyens engagés et la politique, et qui se construit dans les politiques. On a fait une loi en France sur la transition énergétique qui a été faite aussi main dans la main avec les associations environnementales et qui ont porté des idées, qui ont été mises en œuvre et qui en critiquent d'ailleurs certaines insuffisances aussi. Et donc ça continue dans une dynamique qui se crée de cette manière-là.
Pierre Canet, oui, vous voulez réagir ?
Par rapport à l'exercice effectivement de préparation des différentes contributions, les chefs d'État sont arrivés hier préparés. Ils ont, depuis un an et demi, deux ans, préparé des contributions. Et c'est très important lorsqu'on évoque la notion de contrainte, parce que cela signifie que le président Obama a pu démontrer en avance comment il souhaitait et il pouvait juridiquement, à domicile, atteindre son objectif de 26 à 28% de réduction d'émissions d'ici à 2025, avec l'ensemble des réformes et en tout cas des décisions prises, notamment sur la question des centrales à charbon. Donc cette démonstration faite que les objectifs peuvent être atteints aussi à domicile par des outils juridiques au niveau national est fondamentale à Paris.
Alors, je voudrais, on arrive déjà un petit peu au terme de cette émission, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'on pourra parler d'un succès à Paris si on n'a pas cet accord contraignant au sens Kyoto et si on n'arrive pas à se mettre d'accord, avoir des contributions qui vont jusqu'au fameux 2 degrés de réchauffement climatique d'ici la fin du siècle?
Je sais pas, après succès ou pas, je sais pas s'il faut le qualifier par rapport à ça, mais en tout cas, je crois que
c'est quand même les objectifs qui sont affichés depuis des années, à l'horizon de la COP 21.
Et la feuille de route que vous rappelez ici, qui est celle du gouvernement français, moi je souscris totalement. Et si on y parvient, ce sera un succès. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a déjà engrangé des choses très positives. Le fait, on venait de le rappeler à l'instant, que 183 pays se soient fixés des objectifs avec des déclinaisons très concrètes, c'est quelque chose de très important. Le fait qu'il y ait des engagements de la société civile, des organisations non gouvernementales, des communes sur des objectifs très concrets, ce qu'au fond, à un moment donné, Laurent Fabius avait appelé ça l'Alliance pour le climat, tout ça est en train de se nouer très, très concrètement. J'ai rappelé les investissements qui sont en cours, les projets pour le continent africain.
Donc vous êtes résolument optimiste
donc,
sur les débuts de cette COP.
On a déjà engrangé des choses très importantes avant même la fin de la COP 21.
Donc le fait que ces contributions n'arrivent pas aux 2 degrés, pour vous, ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est la dynamique.
Mais il faut absolument, même si on est à 2,5, 2,6 degrés, à partir de cet acquis-là, qu'on ait créé des processus contraignants. Il faut que ces processus soient contraignants, avec des rendez-vous réguliers et avec des progrès enregistrés. C'est tout à fait important. Et moi, je suis optimiste parce qu'il y a beaucoup de poids politiques qui ont été mis par les chefs d'État. Vous savez, quand le président américain, quand le président chinois, quand le président russe viennent et disent, écoutez, si on ne prend pas des bonnes décisions ici, on aura une responsabilité vis-à-vis des générations futures. Je ne vois pas comment. Mais bon, je croise les doigts. L'accident est toujours possible.
Les délégations
ne puissent pas aboutir à ça. Mais ensuite, je vais dire, ce sera une étape très importante. Mais ce qui se passera après sera tout aussi importante. Et vous savez que la France continue à présider encore pendant un an. Et moi, j'attends de la France, et tout particulièrement de Laurent Fabius, qui a présidé le processus, qu'elle continue pendant l'année qui suivra à être garante de ce qui aura été décidé ici et de sa première mise en œuvre.
Alors Pierre Canet, est-ce que vous aussi, vous êtes optimiste, vigilant, à quelles conditions vous parleriez d'un accord et d'un succès dans 10 jours ?
Vous posez la question de savoir si la contrainte était une condition du succès.
Eh bien, c'est un bon résumé.
L'accord de Paris, c'est un Rubik's Cube. Un Rubik's Cube avec toutes ses facettes qu'il s'agit d'opérationnaliser très rapidement et de résoudre le plus vite possible. Car le temps est compté, 5 à 10 ans, la fenêtre se resserre dans l'action et si la dynamique est bonne, il s'agit maintenant de parcourir l'autre moitié du chemin et faire en sorte que nous le fassions le plus vite possible. Alors ce Rubik's Cube, une des contraintes, effectivement, c'est de savoir comment rapidement le résoudre et le temps est compté et c'est pourquoi nous demandons que des actions supplémentaires soient conduites bien avant l'entrée en vigueur du nouvel accord de Paris en 2020, faire en sorte que les objectifs puissent être revus en 2018, mais pour que cette revue soit à la hausse, il faut qu'en 2016 les pays se remettent au travail chez eux et davantage de collaboration effectivement est demandée dans ce travail.
Donc si je vous comprends bien, c'est un bon début, mais ce n'est qu'un seul début.
Oui.
Qu'un début.
Juste un point pour conclure, mais très très court. C'est-à-dire, il y a un mot qu'on n'a pas évoqué, mais qu'a évoqué le président de la République dans son discours, c'est la justice climatique. Je crois que cet accord sera un succès si enfin le Nord et le Sud vont ensemble contre le climat, et donc s'il y a les financements, les fameux fonds de 100 milliards qui sont au rendez-vous et qui ne sont pas simplement des promesses, mais effectifs.
Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à nos deux invités, Jean-Marc Germain et Pierre Canet. Merci également à Florence Ponce, Bertrand Éclair, Romain Ferret, toute l'équipe mobilisée au Bourget pour rendre possible cette émission. On se retrouve demain pour un débat sur l'état d'urgence, sur les assignations à résidence abusive. Les autorités en font-elles trop ? À demain.